Et puis d'un coup, on entend deux déflagrations de fusil à pompe, puis il revient avec un anaconda. Moi et ma peur viscérale du serpent, pas tranquille. On va pas se mentir, on va arrêter de se raconter des histoires. À 23 ans, c'était mon arme, mes chargeurs, mon APAV ici, mon truc. Et j'y allais pour combattre. Et je fais l'impulsion pour monter dans le car. J'ai un flash. Putain, il va se passer un truc. Je vais crever là-bas, je vais pas revenir. D'un coup, on entend... Au moment où je prends mon arme, j'ai deux rafales. Il y en a une qui me passe ici et une qui me passe ici. On m'a réanimé une première fois pendant que ça tirait. On m'a réanimé une deuxième fois dans le Black Hawk. Et on m'a réanimé une troisième fois dans la salle d'opération. Salut, c'est Thomas. J'ai 37 ans. Et j'ai fait 15 ans au 8e RPM à Castres. Et aujourd'hui, je vous raconte mon histoire pour Vétérans de France. Je suis d'un petit village au nord de Lille, donc Lille, pas l'île de Ré, dans le nord, bien dans le nord. Il s'appelle Provins. Je suis issu d'une famille avec papa, maman, mariés depuis plus de 40 ans maintenant, et une sœur et deux frères. Comment j'y suis venu à l'armée, c'est pas très compliqué. Pour la énième connerie que je fais quand j'étais adolescent, il y a un album photo. Les anciens là, les trucs énormes comme ça, épais comme ça, qui me tombent sur la figure. La page s'ouvre où je vois la photo de mon père comme ça, sur quand on fait la célèbre photo des parachutistes au musée de Pau. Mon père comme ça, avec le béret rouge, l'insigne du 3, alors pas l'insigne du 3 de maintenant, mais l'insigne d'avant, comme ça, bien sérieux, bien baraque, bien fier. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mon père ne m'avait jamais parlé. Jamais, jamais parlé. Je savais qu'il était militaire, mais jamais parlé de para, jamais parlé de béret rouge, de machin, de truc. Et ça m'est tombé sur la trogne, comme ça d'un coup, en faisant une connerie. Donc après avoir pris la baffe, je lui ai quand même demandé si je pouvais reprendre le truc pour regarder. Et je l'ai vu au snack, à travers la falaise et tout, en train de faire les trucs. Enfin, voilà. Et là, j'ai dit, ça a l'air pas mal. Alors peut-être, parce que moi, là-bas, je voulais devenir vétérinaire. J'étais très, très bon à l'école. Et arrivé à l'adolescence, la pression, quand on en met sur un niveau trop élevé, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai tout arrêté mes cours. Je suis parti à l'armée comme ça, en fait, tout simplement. Parce qu'en quatrième, il y a toujours un stage de découverte. Tout se passait bien, sauf qu'à un moment donné, il y a eu une urgence. Et j'ai vu un petit chien arriver avec l'abdomen qui avait été bouffé par un Doberman. Et je voyais pour la première fois un truc bouger, du petit clébard. Et en fait, je suis tombé. Et là, je me suis dit, vétérinaire, peut-être pas. Voilà, tout simplement, donc ça m'avait fait un peu flipper. Et après, les études vétérinaires complets, entre 29 et 33 ans, si on loupe rien. Donc moi, je suis quelqu'un de pratique et pas théorique, donc il fallait... Bon, j'ai vite abandonné le truc. Donc je suis rentré à l'armée en janvier 2004, exactement. Le plus dur examen quand on au centre de recrutement, c'est la visite médicale, parce qu'on peut, on peut rien gérer. On fait l'affaire ou on peut pas faire l'affaire. Et en fait, ce jour-là, on me demande, avec un petit camembert, de voir les trucs en relief. Je regarde. Et on demandait d'avoir les trois portions. J'en ai deux sur trois. Donc le mec, il met un tampon rouge. Il dit, OK, voilà, machin. Et puis je passe à ce truc. On va faire la séance de sport. Et je m'étais préparé un an avant, en salle de muscu. Donc beaucoup de traction et ainsi de suite. Et donc, par rapport au self-sifi qui était à côté de moi, j'étais un petit peu plus tanké. Et donc, je vois le recruteur avec un béret rouge. Comme ça, là, l'ancien avec limite une taille de couteau sur l'œil, et qui me dit toi, tu veux faire quoi plus tard? Je veux là où ça bouge. Il fait OK, donc chez les paras, peut-être. Et je fais qu'est-ce que je dois faire pour aller chez les paras? Combien de tractions je dois faire? Il fait bah là, normalement, c'est 4. Il fait mais si tu veux que je t'y envoie, t'en fais 10 minimum. Je fais bon, très bien. J'en faisais déjà une vingtaine avec un poids de 10 kg comme ça, je disais ça va pas être très compliqué. Donc ce jour-là, j'en ai fait 23. Il m'a dit OK, bim. Donc je le vois dans le bureau, il était trop content, il fait allez chez les paras, il tourne la feuille et il voit le tampon rouge de la visite médicale. Il fait mais tu peux pas aller chez paras? Je dis mais pourquoi? Il fait lunettes, yeux, t'as les yeux limite qui voient, qui se disent merde à l'autre. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai dit mais attendez, mais moi j'ai vu les trucs des trois portions, là, je peux vous le refaire, je comprends pas quoi. Bon, c'est bon, j'ai réussi le test. Donc il prend le téléphone, il fait, vous avez encore couillé les gars. Refaites-moi passer le test à ce petit gars que je l'envoie chez les parrains. Et en fait, au moment où j'ouvre la porte, bah, je tombe sur une femme et pas sur le mec qui me l'a fait passer. Donc elle me prend les lunettes, elle me dit, où sont les trucs? Moi, j'y voyais toujours rien, mais je fais ça, ça, ça et ça par rapport au fait qu'on me l'avait dit juste avant. Et là, le truc devient vert et je pars chez les parrains comme ça. Et au 8, bah, parce que j'ai dit, bah, j'avais profondément envie d'aller au plus loin dans le sud et c'est tombé sur Castres, tout simplement. On avait un sergent qui se tenait au-dessus, donc sur le truc qui nous supplantait absolument tous. Donc on est tous arrivés avec nos sacs, coucou, comment ça se passe? Et il dit, oh, c'est par ici que ça se passe. Et il avait le béret, donc l'insigne bien aligné avec l'œil, complètement sur le côté, donc on voyait plus de cheveux que de béret, et la gueule est vraiment comme ça. Et il dit, c'est par ici que ça se passe, ceux qui veulent partir, vous pouvez encore. Ben non, on vient de faire 8 heures de route, on va pas partir quand même. Et en fait, ce sergent-là, je lui ai répondu 1 heure après. On devait faire le truc 1, 2, 3, 4, se compter sur l'ensemble du couloir. Et il me fait t'as pas une belle tête, il me regarde comme ça. Je fais ouais, et alors? Mais parce que ça sort tout seul, quoi, ce jeu. Et là, je me prends ma plus grosse droite de toute ma vie. Je tombe, chaos technique. Il dit, toi, je vais m'occuper de toi pendant 6 mois. Et effectivement, il s'est occupé de moi pendant 6 mois. Mais ouais, de 73 dans les classes, on a terminé à 24, et j'étais dans les 24. Mais parce que je pense aussi qu'il voulait peut-être aussi. Et après, avec le recul, j'ai su quelques années après, ah ouais, t'es la classe de ce sergent-là? Oui. Ah ouais, bah tout l'encadrement, tu vois l'encadrement que t'as eu? Je fais oui. Et bah ils étaient tous interdits de classe depuis 5 ans. Et je sais pourquoi maintenant, parce que les 6 mois qu'on a passés, ça a été compliqué. Ah ouais, on avait un chef de section qui avait fait le plus gros stage commando au monde, le plus dur. C'était les Lanceros pour manger. Nous, on avait nos gamelles, et lui, il prenait toujours sa petite poche. Il avait une petite barre, les petites barres chocolatées, le truc que tu prends en 5 minutes quand tu marches. Lui, il prenait un petit croc comme ça, il remettait un bout de Chatterton, et il faisait ça comme ça. Et en fait, il mangeait que ça en une semaine. Et à chaque fois, c'était lunaire. Mais pour un petit gars qui arrive, qui a rien vu de sa vie, qui a 18 piges, je suis tombé où, quoi? Donc ça a été, voilà, mais ça a été très très intense, très dur, ça a été vraiment dur. J'étais pas très bon pendant mes classes parce que j'ai enchaîné beaucoup de blessures. Donc j'étais considéré comme un petit crassou, comme ils aiment bien le dire. J'ai évolué plus quand on a commencé à me donner des responsabilités, prendre vraiment le truc à cœur et ça m'a permis d'évoluer, d'être mieux après. Mais au tout début, c'était compliqué, au 8. On termine nos classes de mémoire en juillet 2004, oui, c'est ça. Et on part à DC04, on part au Kosovo. Ah si, un an plus tard, ouais. On nous dit, bah voilà, on part au Kosovo. C'est la compagnie qui part, donc on fait partie intégrante de la compagnie. Donc on nous explique qu'il va y avoir quelque chose de fait. C'est plus une démonstration de force pour le Kosovo qui voit un petit peu qu'on est là et qu'on arrive un peu en force. Mais ça reste un SOAPS. Et un SOAPS, le dernier, c'était Colvézi pour les légionnaires. Donc on prend la mesure, quand on voit et on voit l'historique de Colvézi, on voit la mesure de ce qui nous attend. Et on dit, bah voilà, vous préparez un sac, les machins, donc les poids, vous ne devez pas dépasser les 220 kilos, et ainsi de suite. Donc ça dégueule de partout, les gaines. Et puis si c'était bien fait, les gaines, ça se saurait aussi. Donc c'est du grand n'importe quoi, mais ça passe. Mais je ne pense pas qu'on était conscient de l'enjeu et de ce qu'on s'apprêtait à faire. On disait, bah non, c'est un saut normal. On sortait il n'y a pas très longtemps de la formation des sauts, donc on savait très bien de se lever à 3 h du matin pour sauter à 10 h et ainsi de suite. C'était du connu. Ça a été vraiment à l'ouverture des portes où le vent s'est engouffré parce qu'on avait passé 5 heures en train de crever, essayer de respirer, et on a dû s'équiper en vol aussi. Ça, c'était une première. Et là, on faisait ça, ça rentrait dans les chicots du mec à côté, on essayait de rentrer, ça rentrait sur les couilles de l'autre. Bon, bref, c'était du grand n'importe quoi. Tous dans un transal, donc pas très grand non plus par rapport à la 400M d'aujourd'hui. Et le jour, enfin le moment où les portes s'ouvrent, on veut dégager de l'avion. Ouais, vite, vite, peu importe, on y va. Et effectivement, le chronomètre, quand on voit la vidéo de ça, bon, ça déroule, quoi. Donc voilà, donc, il n'y a eu qu'un blessé ce jour-là. Et autrement, tout s'est bien passé Et c'est vrai qu'on s'est dit, ouais, on marque l'histoire. On marque l'histoire. C'est plutôt cool, même si bah, à 20 ans, marquer l'histoire, tu n'y penses pas forcément. Tu te dis, bon, ça fait 2 ans que je m'entraîne, je vais aller peut-être pouvoir faire des missions plutôt cool au Kosovo. On vient chercher ça en premier. Le côté, on passe à la pratique, pratique. Je pars en 2005 en Guyane. Et la Guyane, bah, c'est vraiment, c'est pas une opération extérieure où on prend des risques. C'est vraiment quelques opérations de contre-orpaillage. C'est surtout une opération, une mission d'entraînement, puisqu'il y a tout ce qu'il faut, comme le Gabon et ainsi de suite, la Réunion. Il y a beaucoup de choses pour s'entraîner. Donc on y va plus dans l'optique de s'entraîner. Donc on fait un stage commando. On est dans un pays où il y a 80-90% de taux d'humidité. Donc juste à faire ça, on perd déjà 3 kilos. On nous laisse pendant 15 jours sur un bivouac existant, avec des pisteurs qui recrutent directement d'anciens orpailleurs des fois, qui connaissent la jungle, bah, comme moi je connais ma maison par cœur, donc c'est plutôt assez intéressant. Et puis donc voilà, ils nous proposent des chasses de nuit, le caïman, les crocos, ou alors des fois on faisait des repérages, on partait toute une journée en mode topo donc avec eux. Une de ces marches a fait qu'à un moment donné, il y a le Brésilien, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais le Brésilien qui nous dit stop, il part. Et puis d'un coup, on entend deux déflagrations de fusil à pompe, et puis il revient avec un anaconda. Alors, moi, et ma peur viscérale du serpent, pas tranquille. Déjà, j'avais le fusil à pompe qui chatouillait, prêt à tirer si l'autre il bougeait. Et donc voilà, donc c'est comme du lapin. Alors, notre anaconda, nous, il avait une grosse boule en plein milieu, et c'était un cochon des bois qu'il avait fractionné et pff, et ça, c'est sa nourriture pendant plusieurs mois. Donc, c'était impressionnant aussi de voir, un peu comme. L'image est un peu bizarre, mais un peu comme un bébé qui sort du truc, ça fait un peu. C'est vraiment très dégueulasse, ça pue en plus. Et en fait, bah, le Brésilien nous prépare ça et on mangeait du lapin. Si je fermais les yeux, je mangeais vraiment du lapin. Enfin, c'est en tout cas l'odeur du lapin de ma mère qui sortait avec les légumes du truc de la marmite, c'était juste incroyable. Et après, dans les mêmes semaines et mêmes jours après, on a fait une espèce de chasse de nuit où on voyait des petits crocos, enfin des petits crocos, des caïmans crocos, alors je sais plus trop. On voyait juste les yeux qui étaient, bah, forcément juste à la surface. Et on avait toujours un canaque avec nous, parce que les canaques sont réputés pour ça, ils sont tellement forts et qu'ils n'ont pas trop peur de grand-chose. Donc on tire deux, trois coups de fusil à pompe. Et les crocos pour se protéger, soit ben, il était mort, et là pour le coup il coule, ou soit des fois spontanément il coule pour pouvoir ben, mieux croquer sa proie et être patient. Et là le Brésilien il fait ben, je sais pas si on l'a touché, je sais pas s'il est mort. L'eau elle est marron, il n'y a aucune raison pour y aller, sauf prendre trop de danger. Et j'ai un caporal-chef du régiment, un Corse, et qui plonge là pour le coup et qui va nous le chercher. Et les autres, quand ils se réveillent le lendemain matin, effectivement on a le caïman qui pend, forcément prêt à se découper. Et on n'a jamais aussi bien mangé pendant cette survie améliorée, ou quand les instructeurs sont arrivés, bon, on avait les billes, on avait pris 3 kilos tous, sans riz, sans rien, et parce qu'on s'était débrouillé, et parce qu'on avait un chef de section qui avait passé la moitié de sa vie en jungle. Quand on parle avec ce chef de section-là et qui a vraiment fait la moitié vraiment de sa vie militaire en jungle, c'est un peu plus rassurant que celui qui va sortir de l'école bien peigné en disant bon, qu'est-ce qui se passe ici, quoi. C'était bon souvenir, c'était bon souvenir. J'ai un chef de section qui m'a dit je te veux chef d'équipe. Oui, mais j'ai pas mon CME. Ok, bah tu pars faire ton CME la semaine prochaine. Non mais ok. Donc je pars faire mon CME, ça se passe super bien. Donc je me découvre une âme de leader, enfin quelqu'un qui veut et qui embrasse sans problème une responsabilité. Et pas n'importe laquelle en l'occurrence pour le combat. Et en fait, sorti du CME, j'étais déjà quelqu'un d'autre. Et ça se passe plutôt bien. J'ai des bons gars avec moi qui m'aident beaucoup dans ma capacité à toujours essayer de les sublimer ou d'être un bon chef d'équipe pour son chef de groupe. Je m'entends très bien avec mon chef de groupe et il me forme beaucoup. Alors je fais des conneries comme tout le monde. Au fur et à mesure de mes avancées et des missions d'entraînement, on me dit, ben, j'ai mon SOA qui me dit, alors l'adjoint qui me dit, ça serait peut-être bien, t'es quand même bon en sport. J'avais plus de pépins physiques, j'arrivais à faire des bonnes perfs. Et il me dit, voilà, je pense que tu vas vite t'embêter avec nous, je pense que peut-être GCP. Mais GCP, c'est les GCP. Enfin, nous, on les voit débarquer avec leurs matos et machin, ils sont taillés comme ça. Je faisais 75 kilos à cette époque-là. Je dis, mais ça doit être hyper dur. Les tests, c'est pas n'importe quoi non plus. Il faut quand même avoir un certain moral. Est-ce que je suis prêt? Bon, en même temps, à chaque fois, est-ce que j'étais prêt pour passer au CME? Est-ce que j'étais prêt pour partir à l'armée? Est-ce qu'on est toujours prêt pour aller dans un stage commando? Et puis à la fin du stage commando, on reçoit le pin, on fait, bon, en fait, ça va, ça s'est bien passé. Donc pourquoi pas? Mais c'était pas l'idée principale. L'idée principale, c'était vraiment d'être un vrai chef d'équipe et de partir à Saint-Mex. C'est ça qui m'animait pour être sous-officier parce que. Ben, mon chef de groupe, je le prenais en exemple. C'était quelqu'un qui était formidable. Fallait pas trop chatouiller, mais très pédagogique par rapport à tout ce que j'avais connu avant. C'est quelqu'un qui était capable de te prendre un truc à dire en disant, ben voilà, tu fais de la merde. Si tu continues, je te découpe en deux. Mais par contre, voilà, il faut qu'on travaille ensemble pour que tu puisses monter d'un cran. Et donc, il m'a toujours habitué en tant que chef d'équipe de travailler comme un chef de groupe. Et il m'a toujours dit, le jour où tu es chef de groupe, travaille comme un chef d'équipe, un adjoint. Et le jour où tu es adjoint, travaille comme un chef de section. Parce que le jour où tu prends la poste, après, tu verras que ça sera simple. Et tu auras beaucoup plus d'avance que les autres qui seront juste arrivés à leur seuil de base. Moi, je les voyais comme waouh, wow, c'est eux qui prennent les décisions, ils ont la radio, en plus de combattre, ils doivent donner des ordres, des machins. C'est plus, entre guillemets, concouille bite avec le couteau, vous faites ce que je dis, vous faites rouleau compresseur. Non, c'est vraiment des voilà, prises de coordonnées. Attache avec le chef de section pour éventuellement dire voilà comment on va faire ça et tout. Je trouvais ça hyper passionnant. Donc je le voulais vraiment. Voilà, tout simplement. Il y a quand même une petite musique depuis quelques mois qui nous dit bah l'Afghanistan, ça va s'ouvrir. Et pour nous, l'Afghanistan, c'est force spéciale depuis les années 2000. Donc on se dit. Et puis il y a surtout la politique qui s'y mêle. Donc on se dit. On peut y aller quoi. Allez, les politiques, c'est parti, monsieur le président. On s'entraîne tous les jours. Au lieu d'avoir des cibles en bois, on aimerait bien se sentir. Il y a quelque chose qui se passe quoi. Même si on n'aime pas, spontanément dire tiens, je me suis engagé pour aller à la guerre. Par contre, je m'entraîne du lever de soleil au coucher de soleil bah, pour que la représentation fictive de ma cible. Bah, il y a un moment donné, je suis pas là pour vendre des stylos. Je suis même pas sûr que j'avais conscience de vraiment la politique interne du pays de l'Afghanistan, de machin, même si dans l'idée générale, on nous le répétait à chaque fois, on est là pour ça, notre mission c'est ça. Mais j'avais 23 ans. On va pas se mentir, on va arrêter de se raconter des histoires. À 23 ans, c'était mon arme, mes chargeurs, mon APAV ici, mon truc, et j'y allais pour combattre. C'était ça qui, pardon pour la vidéo, mais c'était ça qui me faisait bander, quoi. Clairement, il y a un moment donné, il faut y aller. Et donc, le premier, c'est dingue, le premier, un peu comme. Alors, c'est l'image d'une pièce que je lance tout doucement, avec beaucoup de volupté, la pièce qui tourne, et je prends, je la mets, et je regarde, hop, pile. Et bien là, le jour où je rentre, je pose le. Mais c'est vraiment ça, je pose le pied. Et je fais l'impulsion pour monter dans le car. J'ai un flash. Putain, il va se passer un truc. Je vais crever là-bas, je vais pas revenir. Mais ça m'a complètement déstabilisé. Ça m'a. Il va se passer un truc, j'en suis sûr. C'est sûr. J'ai un petit temps de latence. Il y en a même un gros con derrière qui me fait mon gars, si tu commences à avoir peur pour rentrer dans le bus, imagine après. Mais j'ai eu vraiment un ressenti plein de chaleur qui me dit oh, Tom. Il y a un truc qui va se passer. C'est sûr. C'est sûr. Ça sent le sapin. J'y monte, parce qu'en fait, je suis caporal, chef d'équipe, et que je suis un chien fou, et que c'est parti en avant, roule le compresseur. Mais tout le trajet du bus jusqu'à mon premier pas en Afghanistan, il y a un truc qui va se passer. C'est sûr. On fait la mission, ça se passe bien. Première mission, on se fait découper en deux, il y a une rafale qui me passe juste à côté, je dis, oh bah bienvenue en Afghanistan, tout va bien, c'est cool, on prend une bière à la fin de notre première mission, ah bah on y est quoi. Donc voilà, donc c'était ce genre, mes 23 ans, on se dit, ouais bon, j'ai pris une rafale à côté, bon, oh, ça va, il y a pire. Moi j'ai des potes à 23 ans, ils étaient en train de se battre et se dire quelle couleur je prends pour faire montrer par rapport à mon cours en master. Ça, quoi. Moi, c'était est-ce que mes balles traçantes, je dois les mettre en fond de chargeur pour être sûr que je dois bientôt faire mon changement de chargeur à la fin. Donc, on a deux vies bien différentes. On était toujours sur des périodes de on fait une mission, une patrouille, on a une journée de repos et après on est de secours si une section pendant sa patrouille a besoin d'eux. Et donc, ça s'articule toujours comme ça. Et donc, bah, la vie, bah, on continue à s'entraîner les jours de repos. Et puis, bah, il y a des fois, il y a des petites choses qui arrivent. On était en un camp, donc c'était dans une vallée proche d'un sommet. Donc, on était, quoi qu'il arrive, vulnérables. On remplaçait les Américains qui, eux, avec des dispositifs, des matériaux et l'argent pour pouvoir contrôler tout avec des visions nocturnes, des caméras zoom et ainsi de suite, que nous, nous n'avons pas. On avait eu la chance qu'ils nous gardent quand même les petits campements en dur et tout. Donc on était bien logés. Mais on était dans une région qui bougeait beaucoup et les Américains avaient beaucoup buté sur les talibans qui étaient tout autour. Et notre boulot premier, c'était de reprendre la force sur cette vallée-là. Et donc on se faisait souvent de temps en temps attaquer. Il y a vraiment une nuit, on revient de patrouille. Donc, qui dit revient de patrouille, bah, on nettoie les armes, on se remet, prêt à repartir parce qu'on ne sait jamais quand ça va repartir. On fait les chargeurs, je fais mon petit point avec mon chef de groupe, et puis d'un coup on entend. On prend les armes, les trucs, les machins, les casques. Alors, comme ça, parce que bah, forcément, il y a mon chef de groupe qui remet son pantalon aussi, et puis on part, et le dispositif c'était une section par largeur du camp. Et donc nous, on prend notre secteur. Tout le monde savait exactement par répétition et avec l'entraînement que peu importe où on était à ce moment-là, on récupère l'arme, le pare-balles, le casque et on va là où on doit aller tous. Et au fur et à mesure, quand on se rend, voilà, les chefs d'équipe et les chefs de groupe dispatchent sur la largeur. Et il nous manquait un gars. Je dis, putain, j'arrive pas à l'avoir et tout, machin. C'était pas un gars de mon équipe. Mais quand même, c'était un gars du groupe, donc on se dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Une arme en moins, s'il y a besoin de défendre, ça reste une arme en moins. Et en fait, on le voit arriver, il fait désolé, machin et tout. Alors pareil, casque comme ça, on peut rien lui reprocher, non, tout pareil. Il fait, ok, remets bien ton casque, machin, puisqu'il était en train de prendre sa douche, il avait terminé, il pouvait. Et on voyait donc la mousse, on voyait, voilà, le mec, il pleurait des yeux parce qu'il y avait encore la mousse, il n'arrêtait pas de faire ça et tout. Et le pauvre, en fait, bah, il n'avait pas réfléchi comme on lui avait demandé. Voilà, tout simplement, il avait pris son arme, il avait pris son pare-balles, son casque, sous la douche, nu, avec de la mousse, et il était comme ça. Non, mais. C'est juste pas possible. Et on lui a dit, mais non, mais putain, mais repars. Repars, va prendre ta serviette, douche-toi, c'est bon. Laisse ton arme ici, putain. C'était juste pas possible. C'était lunaire. Mais c'était des gros moments de fou rire, de cohésion, de folie, parce que aujourd'hui, quand je repense à Afghanistan, je repense forcément à ce qui m'est arrivé, mais je repense aussi à ces bons moments-là. Et je pense que quand ça va pas, il faut aussi se raccrocher à des petites pointes positives comme ça, qui donnent un peu plus de lumière que d'ombre dans sa vie de tous les jours. Et ça, ça en fait partie. C'est vraiment très sympa. C'est juste lunaire, quoi. C'est vraiment très sympa. Donc j'ai vraiment adoré ce moment-là. Et ouais, c'était plutôt cool, hein. Donc pour l'Afghan, on y vient forcément au 17 août. J'avais pris l'habitude de mettre une putain de bonne musique dans les oreilles en m'équipant. Ça me permettait d'être dans ma petite bulle, tranquille, de rien oublier dans mon process de préparation. Je mets mon pare-balles, dégueulasse, les trucs à l'ancienne là. Et au moment où je mets mon bandana, parce qu'on avait des casques, et quand on faisait beaucoup de patrouilles, 50 degrés, beaucoup de transpiration, ça faisait mal au crâne. Donc j'avais pris un petit bandana noir. Et au moment où je serre le nœud, gros coup de chaleur, comme pour je remonte dans le bus. Et là, ça me fait vraiment peur. Là, ça me fait vraiment peur parce que grosse patrouille, très sec, très aride. Donc on se dit, ça va être dur. Et là, faute ou pas, échec ou pas, j'en fais part à mon chef de groupe. Je fais Roland, il y a un truc, j'ai ressenti ça, bus, maintenant je viens de le faire. S'il se passe quoi que ce soit, il faut aller là, machin, il y a une petite lettre et tout. Mais ça va pas. Arrête tes conneries, n'en parle pas au gars. T'es un peu le référent, n'en parle pas au gars, t'es mon bras droit s'il se passe quoi que ce soit, puisqu'en mission on désigne toujours. Donc il m'a dit, c'est toi qui prends le groupe s'il m'arrive quoi que ce soit. Mais je sais qu'il va m'arriver quelque chose, j'en suis sûr. Et 8 heures après, bah, j'étais en train de crever. Par protection envers mon cerveau vis-à-vis de moi, psychiquement, psychologiquement, je ne sais pas trop comment ça se passe. J'ai eu des grosses pertes de mémoire de ce jour-là. Et d'un côté, tant mieux, parce que je pense qu'il y a certains de mes camarades sur ce qu'ils ont vécu aimeraient avoir aussi des pertes de mémoire. Je me souviens de Brive. Et après, ma mémoire est directement liée à la vidéo que j'ai de mon embuscade. Puisque j'avais obligé mon numéro 1 d'avoir une caméra, d'un point de vue une, à chaque retour de mission, de savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et d'un point de vue pur, alors pour toujours s'améliorer, puisque j'étais un jeune chef d'équipe. Et après, c'était surtout pour avoir une trace vidéo, s'il ne se passait quoi que ce soit, pour que qu'on puisse comprendre et peut-être même aider les familles à. Donc pour moi, c'était important dans ces deux sens-là. On fait une longue patrouille, comment dire, on a presque plus d'eau parce que 50 degrés et ainsi de suite. Et en fait, on arrive au niveau d'un wadi, donc c'est une rivière asséchée, proche d'un village. Et donc, par ordre, on dit, bon, voilà, on va aller reconnaître le village. Une fois que le village sera supplanté, on repartira, mission Finex, et ainsi de suite. Donc, allez, gars, fin de patrouille, on remet les écoutilles à leur place, on réouvre les yeux. C'est compliqué, oui, mais on a quand même un village à reconnaître. Et donc, je me souviens très bien, c'est que de ma position, la veille, ce village avait été pilonné par les Hadiths. Donc, on avait des cratères naturels de ce pilonnement. Bah parfait, parce que nous, hop, on posait l'arme, on était protégés ici, le casque, on ne pouvait pas faire mieux. Et je me souviens qu'on avait, donc à l'époque, ce n'était pas des EOTech, c'était des endpoints, donc les petits trucs rouges. J'ai encore le souvenir, il y avait un petit muret à 25 mètres, 20, 25 mètres de moi, et donc je regardais, je faisais ça avec mon endpoint pour le faire correspondre avec les arbres, la forêt, mais aussi sur le petit muret. Et j'y ai passé peut-être une heure comme ça. Venez, je suis là, je suis prêt, et rien. Et donc, parapluie mutuelle, à un moment donné, c'est à moi de me lever, puisque j'avais un de mes gars qui commençait déjà à franchir, c'est à moi de me lever. Et au moment où je me lève, déchaînement des enfers. Voilà. Le soleil devient rouge, le jour en nuit, ça part dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y en avait quelques-uns au niveau des murets. Et on avait un sniper qui était pas très loin dans les arbres. Et donc quand ça commence à tirer de partout, j'ai un de mes gars, celui qui était devant moi, pas qui se bloque, mais c'est la première fois qu'il se fait tirer dessus. Et donc très naturellement, on ne peut jamais prévoir ce qu'on peut faire. Et c'est pas donné à tout le monde de réagir sur l'instant T quand on se fait tirer dessus. On peut pas jeter la pierre, mais je peux pas laisser mon gars qui est en train de se faire tirer dessus à découvert. Voilà. Donc je lui dis, fais quelque chose, rentre dans le cratère, roule-toi, fais machin. Et donc au moment où je commence à courir pour lui mettre un gros chassé de l'espace pour qu'il puisse rouler dans son cratère, c'est là où je tombe. Et je fais, mais Tom, qu'est-ce qui se passe quoi? Je tombe. Et donc, très naturellement, qu'est-ce que je fais une fois que je suis tombé? La première chose que je fais, je reprends mon arme. Mais j'ai, au moment où je prends mon arme, j'ai deux rafales. Il y en a une qui me passe ici et une qui me passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Et donc la première chose, c'est je réfléchis pas. Et donc qu'est-ce que je fais? Je prends une APAV. Je m'aperçois que je ne peux pas me relever. Il y a un truc qui m'empêche, alors le sac, je ne sais pas trop quoi. Et donc je pivote. Et donc je me retrouve le muret derrière moi et je prends mon APAV. Comme ça. Elle part je ne sais pas où. En tout cas, j'entends un boom. Et là, ça commence un peu plus à. Donc, je pense que j'ai dû faire un peu de bilan. Mais c'est pas ça le plus important. C'est que le plus important, c'est que j'arrive pas à me relever. Je suis en pleine possession de mes moyens, j'ai 23 piges. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai cette sensation d'écoulement sur ma jambe que je sens encore aujourd'hui. Là, on est en train d'en parler, je le sens. Je sens que ça coule là. Et c'est surtout que je vois mon pied. Là, mon pied doit être là-bas. Et je vois une partie de ma chaussure qui est là. En fait, c'est parce que j'étais en train de courir. Donc quand je me suis pris la cartouche du sniper, forcément, inéluctablement, j'ai mon poids qui arrive. Et donc, hop, ça. Et c'est pour ça que je suis tombé. C'est pour ça qu'en train de courir, je me disais, mais pourquoi je tombe? Et effectivement, je me lève grâce à mon flingue. Et là, je vois ma jambe qui est complètement arrachée, qui repose que sur la partie ici. Donc, comme on me l'a appris, boum. Ça coule, donc je rends compte, je suis touché. Je ne rends compte pas que j'ai artère fémorale de sectionner, que je suis en train de me vider et mourir. J'essaye, dans le process, on avait tous nos garrots ici. Donc je prends mon garrot, je ne réfléchis pas, c'est un garrot français. Parce que le garrot américain. Je redresse ma jambe. Et en fait, je redresse ma jambe et pour avoir la, Bah, c'est mécanique, hein, parce que moi, mon garrot, il est là, normalement, si je ferme les yeux. Il n'est pas là-bas. Donc, je redresse ma jambe pour prendre mon garrot là. Bah oui, tu vois, voilà, mon garrot, il est là. Donc, je dois le prendre là, donc je redresse ma jambe. Et puis, avoir une jambe qui est de l'autre côté, qui dit merde à l'autre, ça ne doit pas être la folie. Donc, je fais mon garrot, mais je sens bien que je n'ai pas la force. Et de mes cours, je sais que je dois aller au-delà de la douleur. Et la seule personne qui peut aller au-delà de la douleur, serrer, visser, 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 c'est pas moi. Moi, je suis le gars qui doit subir et est en train de crever parce qu'il y a tous les os qui se referment pour pouvoir arrêter le saignement. Donc, c'est pas moi qui peux le faire, mais je l'essaye quand même. Et en fin de compte, une fois que je sais à peu près que je l'ai mis, je reprends mon flingue et je rebalance 2-3 chargeurs. Et puis, ben, à un moment donné, mon artère fémorale saigne, enfin, elle coule. Donc, je me vide et puis à un moment donné, ben, je tombe. Je me réveille, ça tire toujours autant, sauf que là, j'ai les infirmiers, ainsi de suite, avec moi et tout. Alors, Bijard disait cette célèbre phrase, hein, puisque j'ai lu presque tous ses livres, on n'entend jamais une balle qui nous touche, on entend toujours les balles qui ne nous touchent pas. Et c'est le cas, puisque une balle qui est à côté, ça comme ça. Et celle-là, je ne l'ai pas entendue. Et donc, forcément, bah, la balle touche le fémur. Le fémur explosé, donc je le saurai forcément plus tard, mais explose à ce moment-là en plusieurs morceaux, donc au minimum en 8. Et les éclats de l'os, alors j'ai eu la chance que ça ne m'a pas traversé autrement, puisque c'est du 7,62, pour ceux qui connaissent, autrement j'aurais eu la jambe de découpée et c'était réglé, j'étais au minimum coupé ici, puisqu'elle m'a touché, c'est à peu près ça. Donc là, la balle touche le fémur explose, les éclats d'os, les éclats de la balle, de poudre, et ainsi de suite, viennent complètement ouvrir en deux la jambe. Et comme j'étais en train de courir, bah forcément, avec le poids du corps et le poids de l'équipement, bah, ça vient se déchirer un peu plus et qui repose juste là. Voilà, donc j'avais la jambe un peu arrachée, tout simplement. Bon. Donc voilà, donc je me réveille et beaucoup de monde s'agite, voilà, machin, et je suis fatigué. C'est vraiment ce que je me souviens. Je veux dormir. Laissez-moi, les gars, partez. C'est bon, on a fait une patrouille, je me sens fatigué. Donc ça ne me dérange pas de fermer les yeux, au contraire, récupérer un petit peu, faire une micro-sieste. Sauf que la micro-sieste, c'était la mort. C'était ça surtout. Bah, je savais que j'allais mourir, c'était sûr. Puisque à mon entrée dans le bus, en serrant mon bandana, c'était sûr que j'allais mourir. Donc c'était OK. Lui et moi, on était OK. C'était bien mieux, quoi. C'était OK. À ce moment-là, je suis redevenu catholique. Comme quoi, hein, non mais c'est vrai, c'est con ce que je dis. J'ai toujours été baptisé, mais j'ai jamais cru en Dieu parce que c'était une obligation et c'était ce qu'il fallait faire de l'époque de nos parents. Et lui et moi, on s'était parlé, on s'était dit OK. Donc je m'étais retrouvé un petit peu sur la base de mon éducation. Et puis, tu réfléchis pas trop. Il y a ton chef de route qui te met des patates, ton petit gars qui dit qu'elle pourra rester avec moi, machin et tout. J'arrive même dans la vidéo, puisque ça, c'est un souvenir que je n'ai pas, mais on entend dans la vidéo. Le caporal me dit, il me dit, non, non, ça va, je vous parle comme je veux. J'arrive encore en train de pisser le sang, j'arrive encore à lui dire pourquoi tu me tutoies. T'es qui toi? Enfin, c'est juste pas possible. C'est pas possible que le gars est en train de mettre les mains dans l'artère fémorale, qui dit reste avec moi, il dit mais d'où tu me tutoies? Et donc, sur la vidéo, on entend, bah je te tutoie, c'est comme ça, machin. Oui, bah oui, monsieur. J'ai mon chef de groupe qui arrive puisqu'il était occupé à faire autre chose forcément. Hein. Ils étaient en train de nous contourner. Là, ça sentait vraiment le sapin. Et j'étais toujours au milieu du découvert. J'ai découvert des gens exceptionnels. Alors là, je parle maintenant sur la mémoire visuelle de la vidéo, puisque je n'ai aucun souvenir à partir de ce moment-là. Je n'ai pas le souvenir qu'on me porte dans l'hélico et ainsi de suite. J'ai le souvenir de plusieurs personnes. J'ai le souvenir de plusieurs personnes. C'est là où on se découvre, on a des a priori sur certaines personnes, et c'est là qu'ils se subliment. J'ai vu mon CDU, qui, je dois être transparent, je n'ai pas trop, mais parce qu'un CDU a aussi beaucoup de distance entre les hommes, le groupe, ça reste un commandement, ça reste des décisions qui ne sont pas en accord des fois avec des gens, donc on n'a pas un très très bon rapport. Et c'est normal, et je l'ai compris bien plus tard. Et encore une fois, j'avais 23 ans, j'étais encore un bébé. Donc, bon. J'ai vu mon CDU à genoux, en train de me prendre, en train de mettre ma jambe à l'écart, enfin d'équerre, pardon, donner de l'eau à son transmetteur, en envoyant un message en anglais pour qu'un Black Hawk vienne me récupérer. Alors que ça tirait de tous les côtés, on entendait les. Enfin, c'était la guerre, quoi. Donc ça, c'est fou. Je me suis dit, putain, ça, c'est un vrai capitaine. Il ressemble à rien. Hein. Petit, pas très musclé, enfin, c'était pas l'archétype du solide parachutiste. Mais là, il mesurait 2 mètres, des épaules de 2 mètres, 2 sur 2. Waouh! J'ai découvert que mon petit gars, mon numéro 1, bah, il m'avait sauvé la vie. Il m'avait fait un garrot américain, il m'avait perfusé alors qu'on lui tirait dessus. Pendant qu'on s'occupait de moi, on voit, alors sur sa vidéo, puisque c'est lui qui a la vidéo, on voit la vidéo qui se. Parce qu'il est en train de viser, parce qu'il voilà, et parce qu'il continue à faire son boulot. Et j'ai découvert. Je pense que je peux dire ça, l'amour de mon chef de groupe pour un de ces hommes qui voyait complètement. Il voulait faire plus, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus quand une artère fémorale de ton mec qui est en train de pisser le sang et que t'es pas chirurgien et que même un chirurgien, quand il est tranquille dans sa salle d'opération à Paris, il pourrait pas comprendre ce qui lui arrive, il perdrait peut-être ses moyens. J'ai découvert l'infirmier qui m'a qui a enlevé tous ses pare-balles, qui a pris juste une poche de perfusion, son PA et qui a dit. On ne peut pas le laisser comme ça, j'y vais. C'est lui qui a traversé le Wadi alors qu'il n'y avait aucune protection et qu'il a fait la pire erreur, ça se trouve, de sa vie parce qu'il aurait pu se faire buter. Donc je dois la vie à chacun de ces personnes. Moi, mon rôle d'acteur dans ça a été juste, je suis juste le gars qui s'est pris une balle. C'est pour ça que c'est compliqué d'en parler. C'est compliqué d'en parler parce que j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai juste pris une balle. Mais le mec a 2 ans et demi de service, qui fait le garrot, qui me perfuse alors qu'on nous tire dessus. L'infirmier qui est père qui est marié, qui a un enfant, qui prend tous les risques pour un mec qu'il connaît pas parce qu'il était détaché pour cette mission-là, donc on se connaît même pas. D'un capitaine qui se sublime. Et moi, dans tout ça, ben, je suis juste le gars qui a pris une balle. Donc c'est compliqué. D'en parler, enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel, mon Dieu? Rien. J'ai juste pris une balle. Et en fait, de cette façon philosophique de penser, ma blessure, découle toute la fin de mon histoire jusqu'à aujourd'hui. Je suis juste le gars qui a pris une balle. Je suis juste le gars qui a pris une balle. Je devrais même pas être là. Ça devrait être mon chef de groupe qui devrait dire voilà ce que j'ai fait pour un de mes gars. Ça devait être mon numéro 1 qui est décédé aujourd'hui, qui devrait parler à ma place, ça devrait. Ces gens-là. Je suis juste le gars qui a pris une balle. J'ai fait mon boulot, ni plus ni moins. Il n'y a pas de. Y a pas des. C'est vraiment si exceptionnel quand de reprendre une arme, de mettre un chargeur, d'envoyer une APAV, d'envoyer deux, trois rafales, c'est vraiment si exceptionnel que ça. Combien on est en train de parler aujourd'hui, on a des commandos ou des camarades qui sont en train de le faire là, maintenant où on est en train de parler tous les deux. C'est pas si exceptionnel. J'ai juste fait quelque chose pour lequel j'ai été entraîné depuis l'âge de mes 18 ans et à 23 ans, 5 ans après. Je suis juste le gars qui a pris une balle. Et cette phrase-là, je pourrais me la tatouer. Je suis juste le gars qui a pris une balle. Ça pourrait même être plutôt pas mal devant les filles. Mais c'est. Peut-être en anglais pour éviter que ça fasse trop. Mais c'est compliqué parce que je me sens pas à ma place du tout. J'ai l'impression. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est compliqué. C'est pour ça que c'est dur pour moi d'en parler. Mais parce qu'en fait, c'est pas moi le gars qui mérite les médailles, c'est pas moi qui a mérité un chèque à 6 chiffres, c'est pas moi qui mérite tout ça. Et les gars, pour 2000 euros par mois, c'est eux qui. Enfin, j'ai un rapport qui est assez complexe avec ça et qui va délimiter l'intégralité du suivi de cette blessure, qui est là pour le coup mon vrai combat à partir de ce moment-là. Ça a été vraiment compliqué. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué, mais. Moi, je suis juste le gars qui a pris une balle. C'est juste ça. Puisqu'on m'a réanimé une première fois pendant que ça tirait. On m'a réanimé une deuxième fois dans le Black Hawk. Et on m'a réanimé une troisième fois dans la salle d'opération. Alors, je suis transporté, ça met un peu longtemps parce qu'il y avait un problème d'approvisionnement. Black Hawk, ça devait être un hélicoptère français. Et puis, il y avait un ministre en visite. Donc, le ministre avait besoin de 3 hélicoptères. Et donc, on n'avait plus d'hélicoptère. La gazelle qui est au-dessus de nous, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc, c'est un Black Hawk américain qui est arrivé en renfort. Donc, on a été extrait, une extraction de base, hein, fumigène, machin, couverture. La vidéo le montre, je n'ai aucun souvenir à ce moment-là de ça. Je suis conscient, mais là, le cerveau, il a la mémoire à vriller. On m'amène dans le Black Hawk. Et puis, ben, forcément, quand on perd beaucoup de sang et qu'il n'en reste plus beaucoup, le diamètre d'une cuisse, forcément, au fur et à mesure, elle continue à s'amoindrir. Et donc, le garrot qui était bon ne devient pas bon. Donc, ça recoule. J'ai la chance d'avoir un infirmier américain qui, ben, comme un américain, voit plus de jambes coupées que tout le monde pendant ses missions. Et donc, en fait, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il va me re-sauver la vie. Il va me clamper les deux côtés de l'artère fémorale pendant le vol tactique du Black Hawk qui va m'emmener à Bagram. J'ai parlé de ça avec le chirurgien vasculaire, un des plus doués de sa génération, de l'époque où j'étais à Paris, à l'hôpital. Il m'a dit, j'ai 35 ans de chirurgie vasculaire derrière moi, je suis incapable de faire ce qu'il a fait. Je suis prêt à le recruter dans mon équipe. Ouais, tu m'étonnes. Donc, et pour donner un peu l'image des gens, c'est comme une artère fémorale et elle est coupée, elle se rétracte de suite. C'est comme un élastique, vous le coupez, il est en train de tendre, vous coupez l'élastique, hop, l'élastique il se barre. Une artère fémorale, c'est la même chose. Donc, comment il a fait? Bah, personne ne sait. Et je n'ai pas pu lui dire merci. Puisque 15 jours après, il s'est fait abattre. Son hélicoptère s'est fait abattre. J'ai envoyé une lettre. À sa femme aux États-Unis. J'ai jamais eu de retour. J'espère au moins qu'elle l'a eu. Pour dire, bah, il n'a pas rien fait. S'il n'était pas là avec vous, c'est qu'il était là pour les autres. Donc, il y avait beaucoup de compassion, beaucoup de. On se sent un peu responsable. Parce que 2 enfants, c'est compliqué quand même. Je suis juste le gars qui a pris une balle. Et donc, tous ceux qui ont leur vie changée à cause de moi, c'est compliqué. Parce que moi, je suis juste le gars qui a pris une balle. Elle m'aide beaucoup, cette phrase. C'est la première fois que je l'ai dit autant de temps depuis 13 ans. Ou pas autant de fois depuis 13 ans. Donc voilà, donc, je suis arrivé à Bagram, j'ai été pris en charge par le chirurgien. Un chirurgien américain, quand il voit arriver un garrot supérieur à 2 heures, il prend la scie. Elle est en double dotation avec à côté du scalpel, il prend la scie, il coupe, il suture avec 2-3 cigares. Et tu passes à la case kiné ostéo pour être appareillé. Et... Bonne vie à toi. Oui. Et au moment où, et ça c'est en parlant avec la personne qui va intervenir à ce moment-là, au moment où la scie était déjà allumée, donc il était prêt à faire de la boucherie un petit peu. J'ai un chirurgien français qui est en formation avec lui à ce moment-là, et qui fait garde à vous à tout le monde dans la salle. Il fait pouah, stop, calmez-vous, c'est un Français. Nous, on essaye au maximum de préserver les jambes. C'est pas circulaire, cigare, whisky et bonne vie à toi. On essaye de faire un peu mieux. Et donc, ils travaillent ensemble, ils font du boulot. Mon chirurgien vasculaire à Paris me dit on voit très peu la différence entre la greffe de la veine saphène à mon artère fémorale. Il faut vraiment faire un zoom pour voir les deux tuyaux qui se rejoignent tellement que ça a été bien fait. Donc je me sens chanceux aussi d'être tombé sur les bonnes personnes à ce moment-là. Et puis voilà, ils me mettent un fixateur externe, ils me couent les gros fils électriques bleus. C'est le souvenir que j'ai. Au lieu de se prendre le jus, ben moi ils étaient directement un peu comme couture à l'arrache parce que ben, j'ai un truc qui fait à peu près ça, avec un trou au milieu. Et donc quand je me réveille, j'ai une douleur qui est très très compliquée. Et je regarde ma jambe parce que c'est la première chose que je regarde et je vois en fait ma peau qui fait des vagues comme ça. Ben, parce que c'est fait pas à l'arrache, mais c'est juste que ça a été fait au plus rapide et je serai réopéré en France. Et puis ben, j'ai mal à ma mâchoire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, pareil, dans la vidéo, on entend un bruit répétitif. Et en fait, j'avais ce besoin de me reposer. On a fait une patrouille, je veux m'endormir, laissez-moi tranquille. Et en fait, la vidéo, on entend ça. Réveille-toi, reste avec moi. Et ils m'ont mis tellement de baffes que j'avais le côté, alors plus celui-là, je pense, le côté de la mâchoire, j'étais un peu bleu, j'avais super mal, mais parce qu'en fait, j'ai mis tellement de baffes pour me réveiller, alors que ça ne marchait pas, hein, parce qu'on voit ma tête comme ça sur les vidéos, c'est cadeau. Hein. Je pense que mon chef de groupe, à ce moment-là, a dû m'en mettre, même si j'étais conscient, pour toutes les conneries éventuelles que j'avais fait quand j'étais chef d'équipe ou... Je pense qu'il y avait un rapport aussi de « on remet tout à l'équilibre, comme ça tu as réglé ta facture pour ces 10 prochaines années ». Et donc c'était… j'avais très très mal à la mâchoire, plus que la jambe, donc d'un côté ça m'arrangeait. Moi l'idée de cette interview, de parler, c'est pas non plus de dire « voilà, vous avez fait mal le boulot ou le machin, le truc comme ça », il y a une valeur beaucoup plus haute à ça. Je suis entre les deux. C'est que je me dis, cette interview-là peut aussi servir pour plus tard. Et en fait, les conditions dans lesquelles j'étais rapatrié, je la souhaite même pas au mec qui m'a tiré dessus. Ça a été un putain de traumatisme pour moi. Ça, c'est... Je préfère me reprendre une balle. Mais vraiment, même deux. Ah ouais. Si demain on me dit, ok, t'enlèves toute ta mémoire de ça et tu te reprends une balle dans l'autre jambe, je s'y mets là maintenant. C'est horrible. Horrible. Déjà, je suis le dernier rapatrié. J'étais blessé le 17. Et le 18, il y a 23 dossiers qui tombent au-dessus du mien, dans la foulée, sur la table. Donc je suis littéralement oublié. Et c'est ma plus grosse erreur aujourd'hui. C'est d'avoir été après 18. Alors après, toute proportion gardée, il y a des morts. Et c'est à eux en priorité à s'occuper. Et j'y pense tous les jours. Il y a des copains qui sont blessés. Il faut les rapatrier. Mais je suis le premier. Je suis le premier blessé et je pense que je méritais quand même un petit peu qu'on m'oublie pas, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Je pars 7 jours après. Mes parents ne savent pas où je suis. Personne ne leur dit rien. Je suis rapatrié dans un espèce de transal, mais américain. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne suis pas rapatrié en France, je suis rapatrié à une base militaire en Allemagne, donc c'est à Rammstein. Je passe 7 heures de vol avec mon fixateur externe qui se coince dans la civière en fer pendant tout le long du trajet. Il y a beaucoup de vibrations. Donc en fait, je sentais les deux côtés de mon fémur qui faisait ça comme ça, une douleur atroce. Je parlais pas un mot d'anglais. Il y avait personne qui m'accompagnait. J'avais une infirmière américaine qui me remettait l'oxygène que j'avais envie de baffer parce qu'elle me cassait les couilles. Et j'étais entouré de cercueils américains. Et ça, c'est juste pas possible. J'avais des cercueils américains avec les drapeaux tout autour de moi. Horrible. 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 Est-ce que c'est encore ma poignée de main et ma discussion avec là-haut qui me disait, bah écoute, accompagne-les ou peu importe, d'un point de vue philosophique, mais c'est horrible. Parce que ça sent la mort dans le bordel. Donc ça, c'est horrible. Ça, c'est vraiment ça sent vraiment la mort. La tranche arrière se baisse et on me pose à même le sol. Je touche la main à même le sol. Enfin, oh, les gars, je suis un humain, quoi. Je suis mis dans un J5, ce il y a 30 ans. Où pareil, je vais sentir chaque bond, chaque nid de poule sur la route, et on m'envoie directement à l'hôpital militaire de Metz. Et à Metz, je vais être en caisson hyperbare pour la cicatrisation et ainsi de suite, donc beaucoup c'est lourd aussi. Je vais me faire opérer en urgence, deux opérations en 2 jours, plus caisson hyperbare, et je pars direction Percy, toujours en J5. Donc là, ça fait quand même 9 jours, je suis à N plus 9 de mon accident, j'arrive pas à dormir, je quitte mes hommes, je vais exploser. Je vais arriver aux urgences de Percy, je vais tomber sur un capitaine, donc un officier, mais capitaine ou officier dans le monde médical, c'est juste par rapport à leur fonction, donc c'est pas représentatif d'un capitaine que moi j'ai pu voir au combat, qui va me parler comme une merde, qui va me demander de me calmer, d'arrêter de râler pour rien, qui va avoir même pas une once d'humanité dans son discours par rapport à l'épreuve que je viens de subir, et que bah, qui va se prendre une droite, quoi. Donc je le prends par le col, je moi déjà c'est caporal, fin, et si tu continues, je te démonte. Parce que mes bras, ils sont en pleine possession de leurs moyens. Et là, j'ai cette dernière personne que je pense régulièrement, qui fait partie des acteurs qui m'ont sauvé la vie. Et il restera une dernière personne. Comme quoi, tu arrives dans une pièce, il y a quelqu'un qui arrive dans une pièce et qui illumine la pièce, sans rien dire. Tu dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai mon chirurgien orthopédique, chef du service, qui arrive, qui se met nez à nez avec ce capitaine-là. Il a dit, sortez de cette chambre. Quand vous aurez vécu le quart de la moitié du commencement de ce que ce caporal a fait pour nous, vous pourrez vous permettre de l'ouvrir. Mais en attendant, sortez de cette chambre. Et il me regarde, puisque bah, moi j'étais en mode paraduite, quoi. Infirmière, aide-soignante, même la bouteille d'oxygène, j'en avais envie de la couper en deux. Donc si tu veux, il n'y avait plus aucune. Et là il me regarde, il fait, maintenant caporal, vous êtes chez moi ici. Vous êtes à 2 doigts de sortir de chez moi et je vous mets à la rue. Donc c'est mes règles, c'est mon service, vous la fermez. Je sais par quoi vous êtes passé puisque j'ai des rapports. Il me dit, ça va bien se passer, je suis là pour vous. Et le je suis là pour vous, ça a été pendant 5 ans. Il venait le week-end, il m'apportait les clopes le week-end parce que j'avais plus de sous, je ne pouvais pas les retirer avec le fauteuil roulant. Ouais, ça a été une belle rencontre. Pendant des années, on s'est vu une fois par an pour qu'il puisse prendre en vidéo ma marche, pour voir comment je m'améliorais. Bah, quand on a un fémur coupé en 8 morceaux et qu'il me le remet en fait et que j'arrive encore aujourd'hui à claquer des over the box à 2 jambes à plus de 200 en moins de 20 minutes, bon, il a quand même fait un bon travail. Tu me disais, tu as été l'objet de 43 mémoires des personnes que j'ai formées dans l'hôpital. Chez mes 43 quoi? Je fais, bah, en fait, pour devenir médecin, kiné, ostéo, on doit présenter un mémoire. Et tu as été 43 fois présenté. Et il y a même des fois des juges sur 10 candidats d'affilée qui présentaient la même personne, toi et moi. Et les juges n'en pouvaient plus au bout d'un moment. Et puis bah, j'ai découvert encore des personnes complètement folles. J'ai découvert des infirmières qui étaient compatissantes. Je me suis découvert aussi en tant qu'homme, puisque à 23 ans, bah, on est un bébé, on a encore tout à prendre de la vie. Et puis, bah, quand c'est quelqu'un qui fait la toilette, quand c'est quelqu'un qui te torche le cul parce que tu as le cul plein de merde, parce que, bah, parce que tu peux même pas faire un geste, ça a été une vraie épreuve. Ça a été très, très compliqué. Et puis, bah, il y avait toujours ce truc de les copains. Je suis en train de parler, je suis en train de regarder un film devant la télé. Le flash, ça revient. Les copains, je suis en train de regarder un film. Et les copains sont peut-être en train de crever parce que je suis pas là et parce qu'il n'y a pas mon canon et parce que, enfin, tu pars dans tous les sens. Et puis c'est quand la machine se lance, elle devient de plus en plus grosse, c'est récurrent, ça te bouffe. Il y a des nuits entières où j'ai passé à pleurer en regardant les lumières au fin fond de Percy, où on voyait enfin de la Tour Eiffel au loin et des bâtiments de TF1. C'est des détails, mais que je me souviens comme c'était hier, avec les petits points lumineux orange. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ça ma vie. J'ai 23 piges. Donc ça a été compliqué. Ouais, ça a été vraiment compliqué. Ça a été compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Mais c'est comme ça, ça forge, c'est comme ça. J'ai rencontré mon meilleur pote, qui a été prêt à partir à Castres, faire un aller-retour dans un week-end et m'acheter une Xbox avec des jeux vidéo pour que ma kiné se passe mieux. Et puis des moments de tristesse, de détresse. C'était l'internement en psychiatrie parce que j'étais violent avec beaucoup de personnes. Je tombais moi dans la violence verbale et en fait on me connaissait pas quelqu'un de violent. On m'a jamais connu quelqu'un de bagarreur. Et c'est là où il y a eu un basculement dans ça en fait. Je suis un parachutiste, j'ai 23 ans. J'ai moi un psy, jamais. Je m'en sors par moi-même. C'est moi le patron. Et en fait, je viens avec mon fauteuil roulant. Et je me mets devant le psy, devant son bureau. Sa porte, elle était ouverte. Il fait, voilà, on va passer une première une heure ensemble. Et je dis, moi, je lui dis de suite, je parle pas. Je suis pas un fou, moi. Il se remet à son bureau. Il ouvre ses dossiers. Il fait sa vie. Et moi, j'ai toujours cette horloge qui était ici, là. Et je regarde, il est 11h. Et je regarde. Et il m'ignore complètement. Midi arrive. Je suis bon, c'était très sympa. Il fait oui, je trouve aussi. Et au moment où je passe la porte, il fait une réflexion mais complètement en l'air comme ça. Il fait, il va pleuvoir aujourd'hui. C'est dommage. Et je sors et il fait soleil de fou. Je regarde, ciel bleu, blue sky pour les paras, pas de nuages, rien. Je dis mais qu'est-ce qu'il me dit lui? Je fais, en plus il me prend pour un fruit. Un fruit confit. Donc, je fais demi-tour. J'ai un secrétaire, je passe devant ça. Oui, que ça, c'est. Et je repars dans son bureau et la porte est toujours ouverte. Et il est dans son fauteuil. Donc, il y avait l'horloge et son fauteuil ici. Il était dans le fauteuil comme ça. Pas de livre, rien. Hop, juste il attendait. Et j'arrive. Très sérieux. Et je dis comme ça, je fais, mais vous êtes complètement taré. Il va pas pleuvoir aujourd'hui. Je fais, hier soir avec ma femme, il semblait que j'avais vu, j'ai un petit dispositif météorologique sur le balcon, il me semblait que puis. Il va pas pleuvoir. Il fait, ah ouais. Et de là, en fait, la discussion bascule. Pendant 1 heure, donc de midi, 10, midi, hop, jusqu'à 13h. Il m'emmène dans un truc qui n'a rien à voir avec l'Afghanistan. Mais je parle, et 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 je parle. Et à la fin, à 13h, je ne voulais plus partir. Il me dit cette phrase, ouais, donc, si je résume bien, vous êtes juste le gars qui a pris une balle, quoi. Putain, ouais. Je suis juste le gars qui a pris une balle. Et on s'est quitté sur ça. J'ai fait 3-4 séances par semaine de psy. Pendant l'année qui a suivi, ça m'a forcément changé, ça m'a beaucoup calmé, ça m'a fait du bien. J'ai quand même été interné, parce que suite à ça, j'ai eu d'autres épisodes. L'internement a été dur, parce que la camisole, on te donne le dentifrice, enfin, ça. Tout est. Je suis juste le gars qui a pris une balle. Cette phrase-là vient de là. J'avais refusé, dans un premier temps, d'avoir ma médaille militaire. Je disais, non, les gars, je suis juste le mec qui a pris une balle. Je sais pourquoi ceux qui m'ont aidé n'ont toujours pas de valeur militaire. On peut m'expliquer. Pourquoi eux n'ont pas de valeur militaire alors que lui m'a perfusé pendant qu'on est en train de se faire tirer dessus. il m'a soigné, il m'a fait un garrot. Pourquoi mon numéro 1 n'a toujours pas sa valeur militaire? Expliquez-moi. Cette valeur militaire, là, celle que j'ai eue, l'officielle, je ne l'ai plus aujourd'hui. Parce que 30 secondes après la fin de la cérémonie, je me suis isolé avec lui. Et c'est moi qui lui ai remis. Parce que je trouvais ça inacceptable qu'il ne soit pas dans les rangs avec moi pour pouvoir l'avoir. Donc cette médaille-là, je lui ai dit, écoute, je l'ai chopé par le col parce qu'il ne voulait pas en entendre parler. Je l'ai chopé par le col et je lui ai dit, même si tu veux pas, c'est juste important pour moi. Là, il n'y avait que de l'égoïsme pour moi, pour que je me sente mieux. Et c'est moi qui lui ai remis. C'était le plus important. La moindre des choses. Je suis juste le gars qui a pris une balle. Donc voilà. Donc, et puis bon, bah, voilà, c'est à peu près... En tout cas, pour la période rétablissement, ça a été ça. En fait, j'ai repris complètement de façon opérationnelle mon boulot au régiment. Je suis parti à Saint-Mex, donc la boucle est bouclée. Et donc voilà, donc assez fier parce que quand on part à Saint-Maxent à 10 ans avec l'handicap que j'avais et qu'on arrive encore à mettre des fessées à des jeunes de 22 ans comme à l'époque j'étais, d'un point de vue purement égo, on se sent plutôt pas mal. D'un point de vue humilité, j'ai pu apprendre beaucoup plus de choses et être ouvert un peu plus mon expérience du combat. Ça me permettait, je pense, d'être un bon chef de groupe. En tout cas, je faisais mon max. Donc ça, je me suis séparé. Donc je suis devenu papa. Je me suis séparé parce que moi, je donne tout. J'ai tout donné à l'armée à 100%, même beaucoup plus, ce qui a coûté mon couple. Et je m'étais toujours dit, le jour où il y a un boulet qui commence à se mettre sur mon pied en me levant le matin pour aller à l'armée, c'est que j'ai plus ma place et que j'ai pas envie de devenir un boulet ou un danger pour les copains qui, eux, ont encore la flamme. Et en fait, j'ai rien eu. Je suis juste le gars qui a pris une balle et qui a reçu une lettre et qui, du jour au lendemain, n'était plus militaire. Donc, ça fait un petit peu mal quand même. Je suis très vite rebondi parce que, de par l'expérience de la kiné et ainsi de suite, je me dis, de toute façon, je suis le seul maître à bord de ma vie, de ma nouvelle vie, donc je fonce. Mais quand on n'a qu'un brevet des collèges, et qu'on a eu l'habitude d'avoir des responsabilités à l'armée pendant 15 ans, on se dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'avais ce profond envie d'être mon propre patron. Parce qu'à l'armée, tant qu'on n'est pas président de la République, il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Donc comme ça, l'histoire, elle est réglée, c'est plus facile même. Quand on est blessé de guerre, et ça aussi c'est important, parce qu'il y a aussi, quand on est blessé de guerre, il n'y a pas que le côté physique et psychologique, il y a le côté administratif. Et ça, c'est aussi un gros combat. Et donc, quelques années après, j'ai touché donc une indemnisation due à ma blessure, à mon rang, au nombre d'enfants, et ainsi de suite, après un peu de bataille administrative. Et ce jour-là, j'ai reçu un gros chèque, un gros virement sur mon compte. J'avais l'habitude que mon banquier m'appelle, parce que tous les mois, j'avais tellement fait la fête qu'il m'appelait parce que j'étais à découvert. Ce jour-là, il ne m'a pas appelé. J'ai créé ma société de conseil en investissement financier, et je suis devenu... J'aime pas dire gestionnaire de patrimoine parce que il y a un son pour les plus riches, les plus aisés. J'aime bien dire que je suis devenu un expert en préparation de la retraite. Ma base aujourd'hui, c'est d'être papa. Et ça, je pense que, on a toujours un doute sur sa capacité à être un bon père. Mais si la petite évolue bien comme elle le fait, ça veut dire que je me débrouille pas mal non plus dans cette fonction. Parce que ça reste un boulot à plein temps et que... Et que voilà, donc je me sers de cette expérience-là, je me sers de tout ce qui m'est arrivé pour en faire une force aujourd'hui. C'est pas toujours facile, parce qu'on reste un humain. Mais en tout cas, je pense que je suis au bon endroit au bon moment. Et que le meilleur reste à venir. Tout simplement. Je peux dire que ça, quoi. Est-ce que c'est à refaire de repartir à l'armée? La réponse, elle est évidemment que oui. Puisque... je serais peut-être devenu vétérinaire et qu'à chaque fois que j'avais un chien qui arrivait sur le truc, je me serais tombé et que l'assistance aurait pris le relais. Mais en fait, si je n'avais pas été à l'armée, j'aurais pas de meilleur pote aujourd'hui. J'aurais pas ma fille, j'aurais pas... Enfin, toutes les personnes qui ont été comme des satellites autour de moi, je suis intimement persuadé que je n'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui, même si le matin quand je me lève, j'ai mal à ma jambe, même si c'est dur de se garer sur une place handicapée à 37 ans et de voir les gens qui nous regarde, alors que ça se voit pas forcément parce que je fais encore beaucoup de sport. C'est pas facile tous les jours, mais dès que c'est pas facile, je pense aux copains qui, là où on est en train de parler, qui sont peut-être en train de connaître le même point de départ de tous les blessés et qui vont vraiment subir et que ça va être compliqué, mais que ça va les rendre beaucoup plus forts. L'armée m'a donné presque tout, puisque maintenant c'est moi qui m'occupe de moi et plus le truc de l'armée, mais sans l'armée, on n'est pas grand-chose. Bien sûr que je re-signe demain. Si aujourd'hui je pouvais prendre mon sac et repartir en mission, je le ferais, même pour gratuit, avec plaisir, pour retrouver la bande de potes après une mission, la petite bière, et retrouver mon petit gars qui arrive complètement à poil, plein de shampoing, à prendre son arme et à pleurer sa mère parce qu'il y a du truc qui coule dans les yeux et que ça lui fait mal. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr que je le ferai, bien sûr. Et puis moi, je suis un patriote. Et donc, j'en profite pour dire merci. Parce que maintenant que moi, je suis de l'autre côté de la barrière, il y en a toujours qui sont là pour moi. Les policiers, les gendarmes, les militaires, les sapeurs-pompiers. Merci, parce qu'aujourd'hui, je vis bien avec ma fille aussi. Parce qu'il y a les garants de ma sécurité directe. On a toujours l'habitude de dire les héros, c'est ceux qui sont morts. Parce qu'ils ont tout donné jusqu'à leur dernier souffle. J'aime bien dire qu'on a quand même nos héros qui sont bien en vie et qui font du putain de bon boulot pour que moi je puisse être tranquille avec ma fille tous les jours. Donc si cette vidéo-là peut servir une personne, c'est ok, c'est cool. Et si elle peut le donner le sourire en disant « bah voilà, je suis votre premier supporter ». Et c'est bien de dire merci. On a tendance à l'oublier de temps en temps. Juste de dire merci, c'est cool, ça fait du bien à entendre. Donc voilà, donc ça sera le mot de la fin. C'est vraiment merci pour ce que les gens font. Et je suis juste le gars qui a pris une balle. Rien d'autre.